France Culture.
Donc là, on est dans un tunnel. C'est un peu crade en vrai, alors que le Kata c'est beaucoup plus propre en comparaison.
C'est un peu l'exploration.
Ça fait balader un peu, et puis c'est plus discret dans Paris, c'est pas de problème. Quoi.
T'as une carte, t'essayes de te repérer. C'est un lieu qui est aussi en plusieurs dimensions, quoi. T'es pas juste dans des rues à plat, ça descend, ça remonte, faut s'orienter. C'est un peu aventureux, puis il y a un côté équipement aussi.
Ça s'appelle revient, c'est-à-dire que tu sors avec, c'est moi qui sors pas. Cuissard, t-shirt, pantalon. Du caleçon sportif, c'est de l'été de printemps, donc il est venu en.
Paris, c'est quand même très bétonné, plein de bagnoles. Je déteste les voitures, donc les Kata, il n'y en a pas, c'est vraiment ce qui est génial.
Ouais,
et.
Ça va bien se passer.
Ah, il y a des animaux.
Ouais.
Et voilà, c'est ce truc de fuir la société pour être dans la nature ou à un endroit façonné par des gens il y a plusieurs siècles, plusieurs centaines d'années.
Ça parle de dénivelé là-bas, ici ça parle de je sais pas quoi, nombre de descentes ou. Depuis combien de temps t'es en bas? Ah ouais, oh putain, lui ça fait 48 heures qu'il est là. Et ben en montagne, tu dis oh, il vient de tel col et ça t'intéresse et tu discutes.
Descendez ou...
Non, je descends pas, je suis jamais allé, j'ai peur.
Et en montagne, tu te dis, il y a eu tel événement, ça s'est éboulé, il a neigé, j'ai vu un chamois. Bah là, c'est pareil, tu te dis, j'ai vu je sais pas quel truc, des gens qui faisaient un chantier à tel endroit, j'ai vu passer je sais pas quoi, j'ai rencontré machin. Et du coup, c'est, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles, quoi.
Moi, c'est Arthur.
Moi, c'est Lucas.
Et moi, c'est Mathis.
Et puis maintenant qu'on est sous terre, eh ben, on peut dire nos blazes.
Ouais, donc sous terre, faut absolument qu'on m'appelle l'ours, parce qu'on a des blazes, c'est des surnoms dans les catacombes. Et c'est fait pour séparer un petit peu la vie de surface et la vie des catas, parce qu'on fait des choses dans les catas, c'est un peu illégal, tout ça, donc on n'aime pas que les gens sachent qui on est.
Moi, c'est l'araignée.
Et moi, j'ai pas encore de blaze, je suis pas assez descendu encore pour avoir un blaze.
On pourra faire un baptême. Mathis, ça fait longtemps qu'il descend, on va... En fait, disons, soit t'es baptisé par un guide parce qu'il veut te donner un nom nul, parce que c'est lui qui t'a descendu, donc il marque sa propriété, t'es son touriste. À nous, c'est un peu différent, parce qu'on est frères, donc... Parce que sinon, t'as ta lignée, quoi, t'as le guide de ton guide, etc. Tu fais partie d'une famille, et nous, c'est notre propre famille, quoi, donc...
Manu avec trois frères cataphiles. Frères cataphiles. Un documentaire de Clémentine Boulard. Documentaire de Clémentine Boulard. Réalisé par Félix Slevacher.
Ah pardon.
Je pense que je reconnais les cataphiles par leur mood, un peu comment ils se comportent. C'est avec les, que ce soit avec les autres ou entre leur groupe avec lequel ils sont. Et je pense que ils ont l'air d'être généralement quand même plutôt à l'aise quoi. Ils sont pas à regarder tout autour, etc. Ils sont plutôt dans leur truc, dans leur milieu. Tu sens qu'ils sont habitués, quoi, qu'ils sont chez eux.
Et, ils parlent que de leur nuit dans telle salle, ou d'anecdotes dans telle salle, ou tel endroit, ou telle soirée, où vous avez fait ça, ci, ça. Et voilà, c'est leur sujet principal de discussion.
Mais quand on dormait la nuit, et qu'on savait que c'était le matin, parce que t'as les premiers métros qui commencent à rouler, et tu sens la vibration depuis ton hamac.
Tu peux être en train de dormir dans ton hamac et tu croises quelqu'un avec la musique et tu dis bah, ça doit être le soir alors qu'en fait il est 6h du mat ou un truc comme ça. Parce qu'il y a des gens qui descendent et qui dorment pas quoi. Les gens ils descendent et ils restent éveillés toute leur soirée. enfin toute la nuit.
Généralement, les touristes, ils sont plutôt sages et ils écoutent, etc. Alors que voilà, les cataphiles, c'est des bons parleurs, ils parlent beaucoup, ils racontent plein de trucs. Ou alors, ils sont complètement déchirés, et du coup, ça se remarque très vite.
Voilà. Je trouve pour reconnaître un cataphile, il y a toujours un peu cet esprit, mais c'est l'animal fétiche voilà, des cataphiles, c'est le rat. Mais un cataphile, je trouve aussi dans le comportement, il va souvent taxer un petit truc, un bout de saucisson, une cigarette. Voilà, il y a le petit côté un peu rat. Et puis l'accoutrement. Après, toujours, voilà, l'habit ne fait pas le moine et la cuissarde ne fait pas le cataphile. Mais c'est toujours, on regarde un peu aussi au matériel, voir si en fait ça montre aussi à quel point tu viens souvent, parce que souvent tu vas investir dans un matériel un peu plus confortable, un peu plus adapté. Donc le matériel, oui.
Évidemment, quand tu leur parles, je sais tout de suite s'ils connaissent ou pas, mais genre dès la première conversation. Donc par exemple, je demande toujours... un peu d'où tu viens, mais discrètement. Faut pas demander explicitement par où t'es rentré. Et si tu cherches ton chemin, alors là c'est terrible, faut jamais avoir perdu. Et même la peur du cataphile, c'est d'être vu avec le téléphone à la main. Parce que ça voudrait dire qu'il cherche son chemin. Alors qu'en vrai, on sait tous que forcément un jour où tu te paumes un peu et t'as la carte sur ton téléphone, mais y a pas de honte.
Hein. Faut voir ce qu'il y a de l'autre côté, mais là ouais, on s'est paumé. On va quand même sortir la carte là, on est où là? C'est quoi cette histoire? Mais pourtant, t'es d'accord, on est descendu, on a pris...
Est-ce qu'on a pas...
Boula. Ah, attends, si. On a pris la petite avenue du Midi, on a vu une galerie là, dans laquelle il y avait... Ah, me dis pas qu'on a fait ça.
Ah, c'est peut-être possible.
Ah, si. Ah, ouch. En bas de l'escalier, et du coup, on a...
Pris à droite.
Ah non, 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 on est là. On est au bout. Normalement, il devrait y avoir marqué... Non, je pense qu'on a fait ça parce que sinon, regarde.
Il y a une grosse ambiance chantier là, il y a une brouette, il y a du caillou. Les outils doivent être cachés quelque part par ici parce que tout outil ça a de la valeur, alors tu le caches bien. Mais les brouettes ça se pique. Ils font des chantiers, quand ils construisent, donc, ouais, il y a des bancs, ils ont taillé la pierre, ils ont mis une chaise pour ça. Ça
salut. Vous en pensez? Bonjour. Vous en pensez pendant 5 minutes
Ah,
vous vous posez là?
Ah,
tu vois.
Ah,
salut.
C'est vous qui avez décoré
tout
ça?
Cette salle oui, j'ai décoré.
Oh, c'est beau.
Mais en fait, oui, je ne sais pas si je peux parler en Radio France.
Je ne vois pas que les catacombes sont... sont trop connus, oui.
Je ne sais pas si tu es touriste. Je connais... Il a des cuissardes, je ne sais pas. Peut-être qu'il est catapieux.
C'est ton chantier?
Non.
Ça va. Salut.
Est-ce que t'as une cigarette pour l'instant?
Une cigarette? Non, je fume pas, désolé les gars.
Ah, tu fumes pas?
Non.
Ok, c'est bon.
Allez,
c'est
à plus tard, bonne soirée.
Tu peux aller avec toi?
Ah, on a un peu notre programme.
Ok.
Bonne soirée. Bonne balade.
Bonne soirée. Elle est cool, cette musique.
Là, ouais, on était dans le sud des Qatars, un peu vers plage, les coins qui sont un peu mal fréquentés. Et du coup, on a fait un peu une mauvaise rencontre. Il y a des cataphiles qui sont un peu... Disons que la plupart de nos problèmes, ils viennent quand même de la drogue et de l'excès d'alcool, etc. Du coup, là, c'était le cas typique, hein, le drogué, très alcoolisé, et qui était posé dans une galerie pour relouter les gens, on dit... pour emmerder les gens. Et évidemment, plus les gens ils ont l'air néophytes, plus il y a des touristes, des choses comme ça, plus ils vont monter. C'est comme dans la rue, c'est une rue ici. Et le gars qui est bizarre dans la rue, t'as pas envie d'être dans la même pièce collée avec lui, tu prends tes distances. Et ici, c'est pas toujours facile.
Ouais, mais il y a des gens qui descendent ils descendent le vendredi soir et remontent le lundi matin avant le boulot, quoi.
C'est ça. Ça va pas, c'est des sacrés énergumènes.
Ouais, généralement, ouais.
Et le dimanche matin, quand tu viens, il y a ce que j'appelle les poissons échoués. Ils ont fait la soirée tout le samedi soir, puis ils n'ont pas eu la force de sortir. Donc ils sont là, au sol. À la moitié dormir.
Nous, on a l'habitude, on les flaire à 200 mètres. Donc en général, on part tout de suite, mais des néophytes. Ils voient des gens, ils ont envie de parler. Du coup, c'est ce qui nous est arrivé là exactement. On leur a parlé un peu trop longtemps, et du coup, au bout d'un moment, ils s'accrochent, quoi. L'occupation de l'espace, c'est un sujet qui est assez tendu. En fait, ça serait bien si c'était encore plus grand que ça ne l'est déjà, parce que on veut être tranquille dans sa salle. Il y en a qui font des travaux aussi, ils veulent s'approprier un lieu. Alors, ils ont taillé un petit bout de caillou et ils disent « Ah oui, moi, j'ai contribué à construire Kraken » ou je sais pas quoi. Et en fait, que dalle. Et c'est important, ils veulent faire leurs preuves, tu vois. Et du coup, chacun, il taille un bout de caillou, il est attaché après à sa salle. Donc, faut pas l'embêter. Les cataphiles, ils aimeraient bien être entre eux. Qu'il n'y ait pas de gens qui connaissent pas qui viennent. Ou alors, avec eux, quoi. J'aime bien le nord des catacombes, c'est tout propre, pas tagué, préservé. Tu sens un peu le poids de l'histoire, plutôt le nord, mais bien fréquenté. Et du coup, ça me fait de moi un nordiste. J'ai sudiste aussi, un peu des clans. Par exemple, il y en a qui s'appellent les rats du Val-de-Grâce. C'est des jeunes qui sont tout le temps dans un même coin. Et entre guillemets. Mais il y a surtout voilà, ce côté, ceux qui sont dans le nord du grand réseau qui est sur la rive gauche de Paris ou au sud. Et puis après, ça va au-delà, parce qu'il y a un autre réseau dans le 13e arrondissement, donc il y a les 13ards. Moi, je les appelle un peu les coquillages. Ils vont se poser dans une salle, ils s'accrochent et puis ils bougent plus. Alors, ils font des trucs magnifiques dans les salles. Quand tu vas dans le 13e, tu vois des sculptures, des choses splendides. Leurs salles sont toutes propres. Mais bon, ils descendent par la plaque, ils marchent 10 minutes, ils vont à la salle et puis ils bougent plus, quoi. Alors que dans le GRS, tu es un peu plus mobile, quoi. Tu bouges beaucoup plus. C'est plus facile de circuler. Le GRS, c'est le grand réseau sud. C'est au niveau du 14e, 15e, 5e et 6e arrondissement. Donc c'est très grand. Alors, il y a beaucoup de débats sur le nombre de kilomètres de galeries, mais je crois qu'effectivement, à peu près 300 km, et celles qu'on fréquente un peu moins. Et c'est très grand, moi, c'est pour ça que j'aime bien. On peut rentrer à un endroit, sortir à un autre. Il y a pas mal d'histoires et tout ça. Et le 13e, là où il y a les fameux 13ards, c'est un peu plus petit, un peu plus bas, mais ils sont plus tranquilles. Donc les cataphiles qui veulent avoir la paix, ils vont dans le 13e arrondissement.
Accélérer et tout parce que les murs sont proches et plus tu vas vite, plus ta lumière se resserre un peu devant toi. Et avec la musique et tout, t'avances, t'as des obstacles. C'est ouais, t'as vraiment l'impression de gagner.
Là, on va arriver dans la zone où on va commencer à se mouiller les jambes et les pieds. L'eau commence à être de plus en plus haut et ouais, ça va être chouette.
Alors, suivez bien nos pas. Il y a certaines zones où voilà, on va essayer de repérer les cailloux qui sont moins profonds. Et voilà, et si on tombe au mauvais endroit, on peut bien se mouiller. Mais là, c'est voilà, là, ça fait partie du rite initiatique.
Voilà.
Donc ici, c'est un truc qui est peu connu, c'est qu'en fait, là, sous l'eau, on voit des rites de vagues dans le sable. Bon, moi, j'avais vu ça pendant mes études en géologie, parce que ça se fossilise. Et en fait, là, c'est les gens qui marchent dans l'eau. Ils font toujours avancer l'eau dans la même direction. Et du coup, ça crée ces petites rites sur le sable sous l'eau. C'est vachement joli. On va faire une séquence avec l'eau en avançant vite. C'est un petit jeu, c'est de courir après ta propre vague. Du coup, le but, c'est que tu cours et tu essaies de rattraper la vague que tu as créée. Crée un peu un effet, c'est comme le mur du son, quoi. Ta vague, elle va monter après. Mais il faut courir vite. Ça, c'est, y a une petite, y a un peu d'argile qui se dépose, du coup, c'est archi glissant. C'est une rivière, quoi, un peu sous terre, l'eau circule. Et ça, on voit que ça creuse, il y a des rigoles, il y a des cataphiles qui viennent et qui creusent des trous pour que l'eau puisse circuler, pour que ça détruise pas tout. Il y en a vraiment qui font des chantiers. Du coup, là, c'est mignon, on entend l'eau couler parce que ça a été un peu aménagé. Il y a des gens qui ont creusé un petit peu la roche, qui l'ont taillée pour faire des choses esthétiques, un petit château. Et à l'intérieur, ils ont mis des petits trucs géologiques. Donc là, on voit un bout de gastéropode, un escargot.
sont tous fans du remblai, les cataphiles. Ils adorent ça.
Creuseur de remblai.
J'ai entendu parler des cataphiles avec un qui disait « Ah non, mais ce week-end, je pourrais pas descendre », et puis l'autre qui disait « Fais gaffe, le remblai va te manquer », ou des trucs comme ça.
Là, on peut voir, il y a d'autres petits coquillages, donc là, c'est une sérite, il y en a beaucoup. Et en fait, a priori, on les voit souvent dans le calcaire. Donc, si vous regardez au-dessus de vos têtes, on appelle ça le ciel, le toit des catacombes, le plafond au-dessus. Donc, souvent, on en verra des ciels coquillés, du coup.
Il y a une bouffée d'air, ce puits, qui est creusé jusqu'à la surface. Et parce qu'on pouvait là se lever. C'est un luxe de pouvoir se tenir debout dans les catacombes. Donc on aimait toujours faire une petite pause au niveau du puits. Ça fait du bien. Et puis on peut voir à peu près la distance à laquelle on est de la surface. Cette petite lumière lointaine.
On est à une bonne vingtaine de mètres de la surface. Et il n'y a aucune échelle dans ce puits.
Mais c'est aussi grâce à ces puits que l'air circule dans les catacombes. Et donc qui permet des gens de déambuler sans risque de manquer d'oxygène.
À la voie verte. Alors on a dû marcher, 10-15 minutes là depuis l'entrée. Je vais pas regarder ma montre parce que j'aime bien perdre un peu la notion du temps. Mais là en fait on a atteint le premier point que j'avais atteint lors de ma première descente dans les catacombes. Et donc on s'est engagé dans le tunnel par lequel on est passé. On a fini par trouver ce trou. On a traversé ce couloir inondé. On a été agréablement surpris de voir une plaque sur laquelle il y a marqué le nom de la rue. C'est quand même un luxe dans des carrières. Et puis, au niveau de ce croisement, on regarde au loin et puis on entend un peu du bruit. On voit des petites lumières au bout du couloir. On dit « chouette, de la vie, des gens ». Oh, on n'avait pas trop peur. On s'est dit « on va rencontrer des gens, c'était amusant ». Et puis, il se rapproche, on attend. Et puis, au bout d'un moment, on entend une grosse voix qui dit « arrêtez-vous, police ». Les fameux cataflics sont venus nous voir et nous disent « Bon, qu'est-ce que vous faites là? D'où vous venez ?» Bon, nous, on était là, des néophytes, avec nos petites cartes imprimées, plastifiées. Et puis, ils voyaient qu'on n'était pas méchants. Et en fait, ils nous expliquent que, eux, ils avaient autre chose à faire. Il y avait des gens qui étaient perdus depuis 2 jours, qui cherchaient activement. Donc, eux, ils ratissaient le réseau et ils nous ont dit « Bon, vous allez repartir par là où vous êtes entrés et on ne veut pas vous revoir. » Alors, on s'est dit qu'on n'allait pas jouer. On est reparti.
La première fois que je suis descendu, c'était avec Lucas et une amie. Et en fait, on est venu et puis on voulait pas partir parce qu'on aimait trop. Du coup, on a dormi sur place, mais c'était un peu improvisé et on dormait contre la roche. Et en fait, comme on avait laissé du saucisson, etc., on s'est réveillé la nuit en me secouant. En fait, il y avait un rat géant qui était entre nous et il avait l'air très déterminé de prendre le saucisson. Mais j'ai jamais vu ça. J'en ai vu des rats en souterrain et lui, il avait pas peur. On essayait de lui mettre des coups de pression. Lucas, il est géant. Le rat, il bougeait pas. Le petit, il est parti direct. Mais le gros rat, il nous regardait dans les yeux en mode, t'es entre moi et mon saucisson. Et il l'a eu, le saucisson. On n'a pas fait les malins.
Moi, à la maison, du coup, Arthur et Lucas, ils parlaient souvent de leur descente. Au début, c'était plus à moi. Et puis même après, c'était un peu... on en parlait... à table avec papa et maman, sans rentrer dans trop les détails non plus, mais enfin voilà, ils en parlaient. Et donc moi j'avais super hâte, mais bon, c'est vrai que j'étais encore un peu jeune, j'étais je pense fin de collège à ce moment-là. Et donc forcément mes parents n'étaient pas forcément d'accord pour que j'y aille tout de suite. Mais en seconde, c'est Arthur du coup qui m'a proposé de descendre et j'avais tellement hâte. J'attendais ça parce que souvent déjà en montagne on se faisait des trucs à 3 ou à 2 qu'entre nous, donc on avait un peu ce truc de on aimait se surpasser ensemble et du coup moi j'avais qu'une envie, c'était de descendre avec eux.
Donc là on est arrivé
On va se poser un petit instant à la salle des lanternes. Donc c'est une salle, c'est vrai qu'il y a un peu en longueur, différents endroits pour s'installer. C'est assez confortable, on a des bancs, une table. En face de nous, enfin une table, j'ai une table, c'est un gros caillou plat, mais c'est une table dans le monde des cataphiles. Et on l'appelle la salle des lanternes parce que bah, c'est, depuis que je la connais, ça a toujours été décoré voilà, d'un ensemble, d'une collection, un capharnaüm de petites lanternes installées par-ci, par-là. Jolie décoration et puis ça incite à voilà, installer les lampions, à créer son atmosphère. Et alors pour les regards affûtés, on peut voir sur un des piliers ben, petit personnage, un sylvestre, et ça c'est une petite signature que j'aime laisser à des endroits. C'est caché, il faut les trouver. Je peins des petits sylvestres, c'est des petits esprits de la forêt, dans Princesse Mononoke. Et en fait, je l'ai peint avec de la peinture phosphorescente, qui est assez translucide, donc c'est difficile à les voir à l'œil nu. Et c'est pour le curieux qui éclaire avec une lampe UV, il pourra l'apercevoir, ou alors aussi si on éteint toutes les lumières, vu que c'est phosphorescent, on le verra dans le noir. Et c'est voilà l'exemple de petites choses que j'aime laisser derrière moi, alors je trouve ça dégrade pas les lieux, et ça fait plaisir aux petits curieux qui tombent dessus.
Là on se rend dans la salle sous-coupe et pour y aller on passe une petite chatière, donc un petit boyau de quelques mètres, donc il faut ramper en poussant son sac devant soi.
Petites étoiles phosphorescentes, on a d'autres gens qui aiment la phosphorescence comme nous, qui ont mis des petites étoiles sur le ciel, plantées avec un beau clou bien rouillé, et puis ça brille, du coup c'est vachement sympa. On va se faire l'expérience là, d'éteindre toutes les lumières et de laisser les étoiles briller. Alors on va éclairer à mort à l'UV avant. Ah.
C'était marrant.
C'est trop beau là, ça brille. Ils sont... ouais, ça me fait penser à cette scène dans Château dans le ciel où... ils éteignent les lumières et t'as toutes les roches qui s'illuminent.
Et là, ils ont mis un peu une peinture diluée pour donner l'effet un peu voie lactée galaxie que tu vois dans le ciel. C'est pas mal.
Ça se rend super bien.
C'est vrai que c'est un des grands privilèges des catacombes, la possibilité de contempler le silence.
どれ見せてやるかな。消えちゃった。この辺りの岩には飛行石を含まれているんだよ。飛行石？この通り空気に触れるとすぐにただの石になってしまうがの。
Donc Lucas, t'as bien pris de la peinture, t'as pris c'est du phosphore ou du fluo là?
Ça c'est pour le visage, c'est le fluo, ça j'aime bien parce qu'on a différentes couleurs. J'ai aussi du phosphore, ça c'est pour les sylvestres. Ça va sur le visage aussi.
Le fluo ça brille quand tout est clair, mais le phosphore ça brille dans le noir.
Effectivement.
Une petite nuance quantique là sur l'électron, mais...
Ah mais okay. Tu vois le fluo.
C'est pas mal le fluo parce que du coup quand on éclairera la lumière ça sera joli. Et ça nous laissera un petit style après la session.
Ah, on peut faire un mix des deux.
Ouais, on va faire un mixte. Ça va être bien. Et comme ça, on éclaire à l'UV, et ça fait une ambiance sympa. Puis quand on éteint tout, il nous reste le phosphore.
Exact.
Sachant que le phosphore, c'est un peu toujours la même couleur, quoi. C'est bleu-vert. Alors que fluo, c'est plus varié.
Qui me tend une main?
Je vais aller en plus vite.
Je vais faire en vert, plutôt.
Je sais pas, pour moi, ce sera en vert.
Mmh. Ouais.
Attends que je me souvienne bien. T'as le crâne, puis le serpent qui sort et qui fait une boucle.
Parce que Lucas, c'est un peu un artiste phosphore.
Bah, c'est avec les catacombes que j'ai découvert ça. Et en fait, j'aime bien parce que c'est, ça donne toujours un peu une deuxième dimension. C'est un peu comme une... Comment dire où, bah, dans l'art, on a un spectre de couleurs limité avec lequel travailler. Et finalement, la phospho, la fluo donne un peu un spectre supplémentaire. Et puis j'aime bien ce que tu peux un peu cacher des messages dans des œuvres que tu ne vois que dans l'obscurité. Donc je joue pas mal avec, j'aime bien.
En fait, tu t'es pointé un jour avec ça. On faisait une descente kata et Lucas, là, j'ai une surprise. Il était allé chercher au magasin des farces et attrapes la peinture phosphorescente. Et il dit tout bouge pas et puis il te fait des dessins sur le visage comme ça, là, comme il est en train de faire là. Et puis c'est sympa, t'es un peu retour à la maternelle, tu sais, quand tu fais des dessins.
Comme ça, tu parles à quelqu'un, mais tu le reconnais pas. C'est très perturbant. C'est-à-dire que son visage bouge et fait bouger des formes, et tu n'arrives pas à imaginer le visage. La forme te perturbe. Du coup, j'entends la voix de mon frère ou d'amis, et je n'arrive pas à mettre le visage dessus. Donc, on a beaucoup joué avec ça.
Ouais, à l'intérieur de la main, en phospho, je me suis fait un rat. Classique.
Moi, je fabrique les petits oursons phosphorescents. Donc en fait, je coule de la résine époxy et dedans, je mets des pigments phosphorescents que j'ai récupérés en Allemagne, les trucs les plus phosphorescents possibles en quantité énorme.
Et tu nous as en effet vraiment blindé de trucs phosphorescents.
Mais t'en as fait combien de ces...
Oh, je sais pas. 1000.
Du coup, c'est beaucoup plus phosphorescent que les objets qu'on a l'habitude de voir. Donc en fait, j'en donne des petits oursons, j'en cache dans les katas, comme ça brille pendant quelques heures et les gens peuvent les trouver. Et puis j'en donne beaucoup parce que c'est agréable quand on t'offre quelque chose dans les catacombes, un tract, une bière, un machin, et c'est ça les plus beaux moments. Donc moi, je voulais absolument faire des choses que je donnais.
La voix de l'ours, c'est vraiment mon animal fétiche, c'est aussi mon blaze, c'est le truc. Remarque, l'été dernier, il y a un grizzly qui nous a un peu emmerdé en vacances, donc je me suis posé des questions sur l'identité d'ours. Mais il a décidé de nous épargner. Donc, ouais.
Quand tu m'as raconté que vous alliez aller dans des régions où il y a des ours sauvages, je me suis dit qu'il devait forcément avoir une rencontre entre l'ours et les grizzlies locaux.
Mais c'est vrai que c'est un peu mon symbole, quoi. Je dois avoir 4 t-shirts avec des ours dessus, des ours de partout. Et du coup, je les mets à côté du lit, comme ça, le soir, ça brille. Et dans les katas, c'est sympa. Il y en a qui, des cataphiles qui nous ont donné avec leurs enfants, les copains qui m'envoient des photos des oursons chez eux. Voilà. Après, il y a eu du drama parce que je faisais plusieurs tailles d'oursons et j'avais pas beaucoup de gros. Et du coup, il y en a qui sont venus me voir, qui disent « Alors, comment ça, lui, il a eu un gros, moi, j'ai eu un petit. » Et Lucas, on a fait des œuvres en phospho, du coup, pas que des oursons. Raconte un peu ce qu'on a fait.
En fait, j'avais trouvé...
Bonsoir.
Bonsoir. Attends, bah, je crois que... Bonjour. Je remonte juste la salle et après, on bouge.
Pas de soucis.
Allez, ça va.
Bah, c'est nous qui avons remis pas mal d'étoiles ici.
Non, c'est vous ?
Oui.
Ah, génial.
Mais j'aime trop cette salle. Je suis absolument fan. Il y avait déjà des étoiles, mais je sais pas si on en voit. Elles brillaient plus parce qu'elles étaient trop vieilles. Je pense qu'elles ont pris. Elles ont dû prendre l'eau ou je sais pas. Je pense que ça mute un petit peu. Et du coup, on est revenu avec des nouvelles étoiles. On en a accroché un peu au plafond.
L'effet sur le ciel, il est vraiment pas mal.
Ouais, j'adore. Bah, celle avec les vis, là, par exemple, c'est nous.
Ok.
Toutes les guirlandes et en fait toutes celles qui sont au plafond maintenant. On a enlevé les anciennes parce qu'elles brillaient plus.
C'est quoi ton blaze, c'est quoi ?
Ça fait Perséphone. 2 ans, non, 1 an et demi que je descends.
Vous, c'est quoi vos blazes ?
Mais à peu près 2 fois par semaine. Et okay, elles, c'est leur première descente.
Moi, j'ai pas encore de blaze.
Ah non, faut passer à la fontaine là.
On est des fans de phospho là, on est en train de se faire de la peinture. Et je vais vous passer des petits oursons là. Mais du coup, racontez-moi un peu là, ce que vous avez fait.
C'est... Oh non, c'est trop bien. Là, tu veux la grande?
Ouais, c'est vous.
Vous laissez une bière, du coup?
Ah, volontiers.
Qu'est-ce qu'on...
T'en as une ou pas?
Bah, elle est tout au fond, ouais.
Et là, du coup, vous allez dans le nord ou dans le sud? Vous avez
je pense qu'on va dans le sud, là.
Ouais, là, on va aller vers la crypte. Je vais remontrer Zogotunga aussi. Parce que ça vaut le coup, quand même. Et ouais. Vous allez dans le nord, là, c'est ça?
Ouais. On tourne à nos terres.
C'est ça, les vraies terres.
Et bah, bonne soirée.
Bonne soirée. Bonne
prochaine.
À
une prochaine.
Mais
vraiment, je t'ai pas fait. Non, mais je vais pas...
Du
sable,
ici, c'était des carrières. D'ailleurs, les vieux qui étaient finis des carrières, qui ont été exploités en Gruyère sous Paris. Du coup, il y a eu un effondrement sous Louis XVI à Denfert, en 1774. Et du coup, là, ils ont dit, OK, il faut sécuriser Paris. Donc, il a pris l'architecte royal, Guillaume, Charles Axel de Guillaume. Et il lui a dit, tu t'arrêtes de faire des trucs pour les châteaux, là, tu vas sécuriser sous Paris. Et du coup, ils ont fait plein de galeries pour sécuriser, remblayer. Et c'est souvent dans les catacombes, on circule dans les galeries de l'inspection générale des carrières, l'IGC, qui a été fondée à cette époque. Et puis après, parfois, il y a des endroits où on va voir, c'est vraiment des trucs de carrière.
Avec une amie, on a créé un journal, et du coup, une sorte de gazette des catacombes, qui s'appelle Le Souterreux. Il y avait tout un aspect communautaire, etc., les news un peu, des tutos, des petites infos, des annonces. Et je faisais une chronique sur la science dans les catacombes. Il y a beaucoup de mythes dans les catacombes, d'histoires qui ne sont pas toujours vérifiées.
Ça, c'est un symbole mystérieux qu'on retrouve à plusieurs endroits des catacombes.
Je ne sais pas ce que c'est.
Il
y a une petite secte ou un truc de... C'est un peu l'OA de l'anarchie.
Levé
de vendetta, ouais. Et j'ai jamais pu trouver ce que c'est, on a fait des recherches sur internet.
Je l'ai vu au début quand on a pris, avant la voie verte, je l'ai vu sur un mur.
C'est ça.
Ah, un chronomètre.
Grand mystère. Ouais. On a creusé quelques légendes, par exemple, il y avait des fuites de H2S, donc c'est le gaz soufré là, qui sent l'œuf pourri, et je voulais savoir à quel point c'était dangereux, d'où ça venait, comment ça se faisait, que c'était là. On avait fait des articles aussi, j'ai fait un article un peu sur la lumière, quelle était l'histoire de l'éclairage souterrain, comment disposer ces bougies dans une pièce pour optimiser l'éclairage, donc j'ai fait tous les calculs de physique derrière. Et c'était des petites anecdotes ou comment, pourquoi on entendait le son des métros, comment ça se transmettait à travers les murs. Et donc, par exemple, en fait, c'est un peu contradictoire, mais on a l'impression qu'on entend à travers le mur le train directement, mais c'est pas le cas. Ça transmet la vibration, mais ce qui fait du bruit, c'est les objets qui sont dans la pièce. Donc, par exemple, on laisse un petit verre en métal, c'est le cliquetis, et c'est ça qui fait qu'on entend le train. On n'entend pas vraiment le train, on entend quelque chose qui bouge parce que le train l'a fait vibrer. Il y avait aussi une rubrique qui était l'astro-cata. Donc, évidemment, ça a eu du succès.
Capla, avril, l'amour est dans le GRS. Prends soin de regarder autour de toi. Un cataphile mystérieux n'attend que de croiser ton beau regard. Sylvie, juillet, de belles retrouvailles à venir. Un compagnon de longue date t'attend certainement à votre bon vieux QG d'autrefois. Golem, février. Ce mois d'août est fort en opportunités. Partager une petite bière avec un inconnu pourrait apporter bien plus qu'il n'y paraît.
Les catacombes, c'est pas mal lié aussi à la vie personnelle, quoi. Même intime, parce que c'est pas une activité qu'on peut faire comme ça, et ça impacte toujours le couple. C'est particulier de se dire on rencontre quelqu'un, puis en fait il a des amis qui ne voient qu'un endroit, il a un autre nom, un peu une autre personnalité sous terre. Et donc ça, c'est surprenant, c'est un peu duplicite aussi, c'est un peu particulier. Donc moi, je voulais pas laisser les catacombes de côté ou cachées.
La première fois qu'on s'est vu, il m'a rapidement parlé de cette passion, de cet univers. Et donc rapidement, j'ai voulu le découvrir, puisque je voyais bien que ça faisait partie de lui, une grosse partie pour lui.
Et donc, très vite, j'ai proposé à Emma, j'en ai parlé dès le début, mais je ne voulais pas trop la forcer. Je lui ai fait comprendre que c'était un truc important pour moi, donc je lui ai dit, tu veux qu'on, qu'on... Ah, bon, on peut aller se promener au bois de Vincennes ou on peut aller dans la catacombe, tu choisis. Et en fait, évidemment, elle a choisi pour, je pense. Et donc, on y est allé au deuxième date et c'est vrai que c'était un risque. Et je me suis dit, bon, on avait bien commencé, donc je voulais prendre des risques, quoi. Donc, je me suis dit, on va faire la totale, quoi.
Et donc, la deuxième fois qu'on s'est vu, on s'est vu dans les catas, puisqu'il m'a emmené là-bas pour continuer à apprendre à se découvrir. Ce qui a été particulier, c'est la rencontre, c'est le moment où je l'ai retrouvé, parce qu'il était dans son accoutrement, et j'avais aucune idée de ce qui allait se passer.
On s'attendait à ce que j'ouvre une porte et puis qu'on descende par un escalier. Puis je lui dis, bah, là, on va passer par une plaque d'égout.
Et ce qui est assez étonnant, c'est que j'avais visité les catacombes officielles quelques semaines auparavant avec mon papa. Et donc, j'avais un peu cette image-là et je m'attendais à quelque chose de similaire, évidemment, peut-être un petit peu plus sale, un petit peu plus sombre.
Et là, j'ai senti que ça passait pas trop. Et en fait, quand on est arrivé dans la galerie technique, surtout qu'on était dans un bel arrondissement de Paris, c'était romantique, le changement a été un peu brusque.
Je m'attendais à descendre par un escalier, par exemple.
Il y a des câbles, c'est sale, c'est amianté, il y a de la poussière, des tags.
Et de retrouver des ossements, de retrouver aussi... les souterrains qui sont particulièrement jolis.
Des canettes de bière par terre, et c'est sombre, et plein de saleté et tout ça. Et là, elle m'a regardé en me disant c'est quoi ce truc, quoi?
Oui, je me suis un petit peu posé la question, qu'est-ce que je fais là?
Là, il y avait pour moi 50-50, c'était mort.
Et c'est pas du tout ce qui s'est passé.
Et puis je me suis dit, on va voir comment elle le vit après, quoi. Et puis là, on est entré dans les catacombes et là, elle m'a vraiment surpris.
Mais j'avais confiance en lui et j'ai bien fait puisque...
Et donc, elle dit, ah bah là, c'est magnifique. Et je me suis dit, ok, là, on est vraiment bien parti.
Il m'a amené dans la partie très jolie des catas.
On allait dans un coin trop mignon. J'avais préparé une petite nappe, des bougies et tout, donc c'était trop cool. On a fait une belle sortie.
Dans le carrefour par le dessous.
Ouais, nous on est rentré là. Attends, on est allé à droite.
Ouais.
Ouais. Moi ce que j'aimerais bien c'est qu'on aille à l'escalier de la licorne. Donc ouais, on va faire le tour comme ça. Et là, après on prend celle qui est à droite et puis on sort par le escalier. Allez, on va faire ça.
Le squelette laboureur. Dans les planches d'anatomie qui traînent sur ces quais poudreux, où main libre cadavéreux dort comme une antique momie.
Donc là, ça change un petit peu d'habitude parce qu'on arrive sous le cimetière de Montparnasse. Et donc c'est très quadrillé, les rues, ça suit un peu le cimetière.
Dessin auquel la gravité et le savoir d'un vieil artiste, bien que le sujet en soit triste, ont communiqué la beauté.
Personnage en fait.
Ouais, on passe sous les tombes de gens connus, c'est sympa. Là, il y a la nouvelle, c'est Jacques Chirac. Et puis quelque part par là, il y a la tombe de Baudelaire. Il y a des tombes, chacun trouve un peu son truc. Et j'ai trouvé l'endroit précis en y allant au cimetière, puis ici, où se trouve la tombe d'Henri Poincaré. Je suis mathématicien, donc voilà, ça m'intéresse.
Et donc on va passer tout
ou... Ouais, on va passer tout.
Bon, bah tu nous avertiras.
Donc là, il y a un squelette. Il y a un ossiliac, il y a un crâne, une vertèbre. Ils n'ont pas identifié laquelle. Et donc les os, ils sont tout marrons, ils sont pas blancs. C'est très... ça fait un peu sale. Et là, pour rigoler, bon, on prend un à la main. Du coup, j'avais regardé, il y a eu des études et calculé l'ordre de grandeur. Et donc, en fait, les os contiennent, il y en a 1 sur 50 qui est mort de la peste noire et 1 sur 200 qui est mort de la lèpre. Tu veux le tenir?
Voilà, là, on a de quoi faire une tour de Kaplan. D'ailleurs, il y en avait une, mais elle était cassée. Attends, hop, un petit pile. Hop. En fait, les gens étaient plus petits. Hein. Il y a des os ici, ils datent de... C'est hyper ancien. Il y en a qui sont jusqu'au 8e siècle. Qui étaient dans le cimetière des innocents et tout ça. Donc en fait, en général, ils sont plus petits que, ça, par exemple, nos fémurs à nous. Quoi. Sauf si on va vraiment sous le cimetière, où là, c'est un peu plus récent, près des puits. Mais ceux qui viennent des innocents, ça, ouais, c'est très ça ancien.
On donne une seconde vie.
On le repose. Hein.
Alors, il y a plein de traditions dans les katas, c'est faire des tours de kapla avec les os. Genre, tu te mets perpendiculaire, puis tu fais du kapla. Des trucs joués avec les os. C'est les os qui se tapent les uns contre les autres. Et c'est assez marrant, parce qu'on n'a pas l'habitude quand même de manipuler des os humains. Bon, on va les laisser, parce que là,
ça tremble un
c'est
peu.
Tout bien présenté.
Ouais. Ah bon. Tant pis, ça sera pour le prochain. Allez, allez. Il y avait au moins 10 étages.
Voilà, c'est bien dit, voilà. Devant un beau tas d'ossements.
C'est parti, on va marcher sur les autres. Là, on est vraiment sur une montagne. Il n'y a que ça.
Ouais, les passages bas de plafond, comme ça, on aime bien les faire en courant. Comme ça, ça passe plus vite et on se fait moins mal au dos. Généralement, avec de la bonne grosse steak derrière, comme ça, on garde le rythme pendant un certain temps. Ça fait des petits moments sympas dans nos nuits souterraines.
C'est sur les playlists, là, c'est une idée de mon meilleur ami. C'est une tête de mort, la playlist. C'est les têtes de mort, c'est les katas. C'est chill, quoi. C'est la musique, vraiment, on se pose et le but, c'est plutôt de vraiment se détendre. Deux têtes de mort, c'est un peu, faut être actif, faut pas tarder à partir ou on marche. Et puis, trois têtes de mort, là, c'est on court à fond et faut un truc qui bouge beaucoup, comme les armées romaines pour avancer, quoi. Du coup, et là, c'est gros steak, électro à fond, un peu les trucs un peu classiques. Et puis, voilà, c'est un peu notre code des playlists kata.
Je trouve les catacombes, c'est quand même très vibe, film d'horreur.
Tu flippes par la nuit tout seul ici.
C'est fou. Genre menace Santana ou des trucs comme ça. Très, très type horreur.
Le bruit des crânes, c'est impressionnant. Une mode crânienne qui résonne, c'est...
Dans le noir, dans le noir. Dans le noir, dans le noir.
Ça fait un petit truc, tu vois.
J'ai bien vu qu'elle a tourné la roue. Pas pour que j'ai un doute, ce que tu fais, t'as beau noir.
Perdu dans la forêt, je suis rentré dans la boucle. Les sorcières, les démons, les fantômes, les vampires.
Et tous ceux qui les accompagnent, on les buturait pas où j'irais si j'avais aucun but.
Maléfice et malédiction, la réalité est une fiction. Je me rappelle pas du début. Encore moins de la fin. Elle tient les cartes, elle pense qu'elle voit tout ce que je vais devenir. Dans le noir, dans le noir.
À manger.
Y a même pas un au revoir.
Bon, un
tract.
Hein?
Oui,
il est pour moi.
Oh. C'est marrant, c'est une famille de fantômes qui ont l'air de tous aller sur la file indienne, comme s'ils allaient, je sais pas, un concert. Ou...
Tu l'as trouvé où?
Mais il était juste là. Planqué dans le mur. Ah, il date de avril.
Ah, pas mal.
24 avril.
Pas mal.
Un peu moins d'un mois.
Ah, en vrai. Il est très mignon, j'aime bien. On dirait voilà, plein de petits fantômes colorés qui font la file indienne et qui vont en soirée. Toutes les différents accoutrements. Les chapeaux de forme. Ce qui est indispensable pour les tracts, pour qu'ils puissent un peu durer et se conserver, c'est toujours plastifié. Et donc voilà, c'est un petit bout de papier sur lequel une personne a dessiné à la main. Voilà, cette petite bande de fantômes. Et qui ensuite a été plastifié. Et puis, comme toujours, ils sont datés et signés à l'arrière.
C'est un
vieux
la forme d'un petit canard.
Oui. Le kit du cataphile, c'est la petite plastifieuse. Ça, tu peux faire tes tracts et tout ça.
Et le remblai.
Dans ma poche. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est peut-être que j'irai le recacher. Parce que là, bon, il était peut-être pas si bien caché que ça. Donc j'irai le recacher, ça fera un autre heureux. Ou alors, je pense que ça a motivé à en refaire aussi, les tracts moi-même, et en en cacher un autre.
Fan, ils ont leur petit classeur avec tout leur
Et bien là, oui, on vient d'arriver à une galerie, on voit des racines qui ressortent, et pas que petites. Et je pense que c'est des arbres qui sont dans le cimetière de Montparnasse qui ressortent. Donc c'est les rares exemples de vie qu'on peut trouver sous terre. Et ça, j'adore parce que c'est assez impressionnant. On voit des racines, des radicelles qui ressortent entre les connaissures de la roche. Et qui proviennent d'arbres qui sont 20 mètres plus haut à la surface.
Là, on a une grosse racine, hein. Presque, je dirais, 1 cm de diamètre. Normalement, elles sont plus fines comme de quelques millimètres quand on voit les autres, mais là, il y en a une bien grosse.
On doit aller jusque dans les réseaux inférieurs qui sont en dessous de nous. Si on descend, on verra à nouveau la continuité des racines.
C'est la fontaine des Chartreux qui avait leur caveau ici.
Il y a plusieurs philosophies, il y en a, ils veulent baptiser leurs touristes tout de suite. Pour dire c'est moi qui t'ai baptisé, tout ça. Moi je préfère attendre un peu, je baptise ceux qui deviennent vraiment cataphiles. Les autres, pas besoin. Et pour être vraiment cataphile, il faut qu'ils sortent du puits. Il y a un puits dans une salle pas loin, il faut descendre, il est profond, il faut réussir à ressortir. Et pour moi, c'est l'épreuve. Mathis, t'es déjà sorti du puits, il a déjà fait tous les trucs pour être cataphile. D'ailleurs, on prend quoi comme bête ?
Un animal, non, comme ça, on fait des parties d'animaux.
C'est ça.
Après quoi, je sais pas.
C'est quoi ton animal fétiche?
Justement, je sais pas trop.
C'est ton surnom que tu utilises en général, genre dans les jeux vidéo, les trucs comme ça?
Tisma.
Ouais.
Ça aurait été sympa d'avoir 3 animaux.
Ouais.
De la montagne.
Marmotte. Bout de thym.
Chamois, ça va?
Chamois.
Très bien. Pas bout de thym par marmotte?
Chamois.
Chamois. Allez, on est parti. Tu étais avant Mathis. Et maintenant, dans les katas, tu es chamois. Les galeries techniques, il faut pas que ça s'entende depuis la rue. Et là c'est un peu toujours difficile les galeries techniques parce que c'est plus illégal que les catacombes. On les utilise juste pour accéder, mais faut être plus vigilant parce qu'on n'a vraiment pas le droit d'y être.
Ça faisait penser un peu à Arkham dans Batman, donc c'est l'hôpital psychiatrique semi-désaffecté dans Batman qui est très sombre, c'était très très sale, etc.
Ce sont des galeries d'accès, par exemple des réseaux télécom, Orange, PTT.
Mais tu sens qu'il y a quand même de l'utilité, enfin il y avait des câbles qui passaient, donc ça faisait très comme si c'était encore utilisé mais pas très fréquenté. Et puis parfois, voilà, un peu tu sens la présence de rats, de trucs de rongeurs. Un peu flippant quoi.
Thank you.
où c'est invisible. En fait, des gens qui viendraient ici en cherchant, ils ne trouveraient pas. On fait toujours le test avec des copains, on leur dit de trouver, et ils ne trouvent pas. Donc c'est bien, en vrai, ces trucs-là, ça permet de dissimuler les entrées. Et ouais, c'est vraiment un trou de petits rats. Et vraiment, quand tu vois le truc, t'as l'impression, tu dis, c'est pas possible, mon corps, il va pas passer. Et en fait, si, parce que c'est large des deux côtés, mais le truc en tant que tel, il est tout petit. Et pour les rongeurs, comme les rats que nous sommes, donc on est descendu dans les catas, si la tête passe, tout passe. On va pas tarder à sortir. Faudra quand même faire gaffe parce que c'est vraiment le moment dangereux. Du coup, pas riper sur les échelons, se concentrer, toujours bien tenir avec les mains au cas où le pied glisse. Et puis quand on est en haut, je soulèverai une plaque pour qu'on puisse sortir dehors. Et on fera bien gaffe à ne pas faire de bruit avec la plaque et tout ça pour ne pas gêner les habitants qui dorment. Et puis faudra pas rester à côté de la plaque parce que ça attire l'attention, ça génère des soucis. Et puis voilà, comme ça on est parti. Puis il faut se poser un peu plus loin. Pas laisser de traces avec le remblai en fait. Quand on va sortir, on va foutre du blanc de partout. Le but c'est de laisser aucune trace et disparaître. Et voilà, ça a l'air aussi.
Après, il y a toujours ça tourne.
Sur l'échelle, ça fait gagner du temps.
Hello.
À un moment où on sort, c'est toujours un petit moment contemplatif. Une fois qu'on a passé la plaque, on s'est écarté, mais c'est observer la vie autour de soi. On voit la vie parisienne qui fourmille de partout. Et c'est tellement un peu un choc où tu ressors, où tu étais dans un endroit suspendu du temps.
Un retour à la réalité, et du coup c'est là où tu retrouves tes repères au temps, quoi. Donc là on a l'heure et le soleil, donc c'est les deux moyens de savoir à peu près quelle heure il est. On entend les petits oiseaux qui commencent à se réveiller, le soleil qui se lève sur Paris. Il y a un peu de bruit parce que c'est le début de la vie parisienne, mais tout doucement.
Dans les beaux quartiers, l'endroit où il y a tous les touristes d'habitude. Et là, tu sens non seulement tu as traversé tout Paris dans ses entrailles, tu as soulevé le plein d'égouts, tu as fait mille trucs, et puis là, Paris est à toi en fait.
Moi, ça me faisait penser un peu au film où les gens ils reviennent dans le temps, ou alors ils vont dans le futur. Tu sais, ils arrivent dans un truc où. T'as plus exactement les codes, mais en même temps tu les as au fond de toi et t'es complètement déconnecté du truc parce que t'étais pas du tout dans le même monde juste avant.
C'était Mamie avec trois frères cataphiles. Un documentaire de Clémentine Boulard, réalisé par Félix Levaché. Prise de son, Laurent César, Ludovic Auger, Claire Levasseur, Marie-Claire Oumabadi, Julien Douminc. Mixage, Éric Villenfin. Bruitage, Aurélien Bianco. Avec Arthur, Lucas, Mathis Gublin. Merci à Emma pour sa participation. L'expérience, Aurélie Charon, Inès Duperron.